Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs de cette semaine. Paroles aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations de tous les jours. C'est lundi 18 octobre 2010, nous sommes ensemble pour environ 57 minutes consacrées à la lutte contre la faim. Vous savez que dans un rapport publié la semaine dernière par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, la RDC est sur la liste des 25 pays où la faim a atteint des proportions inquiétantes. Et selon ces rapports, la faim dans le monde touche 1 milliard de personnes et prend des dimensions inquiétantes. Ce même constat a été fait par les participants aux travaux ayant marqué la célébration de la Journée internationale de l'alimentation et le slogan qui a été retenu est « Tous unis contre la faim ». Et d'après le ministère de l'Agriculture de la RDC, 70% des ménages congolais se trouvent en insécurité alimentaire, soit 44 millions de Congolais fragilisés qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 12 millions dans les centres urbains. Et pourtant, le potentiel agricole de la RDC mieux exploité peut nourrir les tiers de la population mondiale. Deux questions pour l'émission de ces jours. Comment restez-vous face à ces rapports et que proposez-vous pour lutter contre la faim en RDC? Nous avons dans cette émission l'ingénieur Mamba Mamba, il est le président national de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. Cynthia Bachiji, assistée de Nicole Ngaka, sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Dédéné Yangassa, qui aura eu la mesure de la présence. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à fa@radiocatif.net.
Bonjour à tous. Selon le ministère congolais de l'Agriculture, Pêche et Élevage, 70% des ménages congolais vivent en insécurité alimentaire, soit 44 millions de Congolais, dont 12 millions vivent en milieu urbain. Et vous avez la parole pour donner votre témoignage et surtout des propositions en vue de lutter contre la faim. Vous pouvez nous appeler au 081-890-6315, 081-890-6315 pour donner votre point de vue, ou soit nous envoyer un mail à l'adresse pa@radiookapi.net. Ingénieur Mamba Mamba, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté d'intervenir dans l'émission Parole aux auditeurs consacrée aujourd'hui sur la lutte contre la faim. Quand on regarde les différents rapports qui sont publiés en ce qui concerne la faim en RDC, et d'un côté on jette un coup d'œil au potentiel agricole de la RDC, comment en est-on arrivé à cette situation où la faim prend des proportions inquiétantes dans ces pays?
Vous avez dit, hein, c'est une contradiction entre les potentialités et la réalité. Donc il faut transformer ces potentialités pour que ça devienne une réalité économique. Tant qu'on ne le fera pas, on va être en train de tourner en rond. Moi, j'interviens en tant que président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. Donc, pour apporter ma modeste contribution à votre émission.
Et quand on regarde alors toutes ces potentialités agricoles de la RDC et la réalité comme elle se passe sur le terrain, à quel niveau se trouve exactement le problème pour parvenir à combler ces fossés et permettre aux Congolais de se nourrir comme il faut?
C'est d'abord au niveau de l'engagement, le vouloir. Vouloir faire de l'agriculture une réelle priorité. C'est ça le niveau important. Je vais prendre d'abord au niveau, par exemple, du gouvernement. Quand vous avez un budget national qui est de 1%, qu'est-ce que vous pensez obtenir de la relance du secteur agricole? Qu'il soit un ministre aussi extraordinaire qu'il soit, il ne peut rien faire avec un budget de 1%. Quand vous savez que les exigences de Maputo veulent que le budget alloué à l'agriculture soit chiffré à 10% du budget national. Donc ça, c'est une première indication. Deuxième indication, c'est le niveau de la population elle-même. Donc, de se prendre en charge de dire que nous faisons de l'agriculture notre pain quotidien. Ce n'est pas dans les immeubles que nous allons relancer, ce n'est pas dans les mines que nous allons voir la vie sauve, dans ce disant que nous voulons nous engager dans l'agriculture.
Mmh.
C'est une prise de conscience nationale.
C'est-à-dire que nous avons leur responsabilité au niveau du pouvoir politique et la responsabilité aussi au niveau de la population elle-même, si on peut bien vous résumer.
Oui, exact.
Voilà, on vous garde en ligne, hein, parce que nous allons cheminer avec vous tout le long de cette émission. Il y a aussi des auditeurs qui sont en ligne, comme Kiyombamba, qui nous appelle Delicacy, qui pourront aussi nous témoigner ce qui se passe dans leur milieu par rapport à ces problèmes qui touchent à la faim, et surtout les propositions, ce qu'ils pensent faire dans leur milieu pour parvenir à lutter contre la faim. Ça sera après quelques secondes qu'on va donner la parole à Kiyombamba.
Parole aux auditeurs.
Kiyombamba, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Perrin, bonjour, de la radio.
Voilà, on a assez de problèmes de ligne avec vous, si vous pouvez, tout en attendant, quand on discute, mais vous ne cherchez pas à prendre une position idéale, hein, ça peut aller comme ça. Vous êtes à Likasi, au Katanga. Est-ce que vous connaissez aussi la situation de la faim, comme on l'a vu avec les chiffres du ministère de l'Agriculture, que 70% des ménages congolais vivent en insécurité alimentaire? Est-ce que c'est une situation que vous vivez comme ça, à Likasi?
Tout le monde le sait, mais c'est vrai que nous voyons quand même des avancées significatives par rapport au temps passé. Auparavant, ici, on vivait des catastrophes alimentaires énormes. Mais aujourd'hui, quand même, nous voyons quand même il y a une politique de la modification, une avancée significative. Parce que nous avons la politique qui utilise maintenant le gouvernement provincial du Katanga beaucoup plus. De la culture de maïs et autres là-bas. Nous voulons que l'État congolais puisse essayer un peu de favoriser, de promouvoir l'agriculture en nous envoyant des machines, comme a été le cas de la distribution des tracteurs dans les différentes provinces de la RDC. Mais nous voulons que le gouvernement provincial du Katanga beaucoup plus de nous, parce que nous parlons particulièrement en termes de notre problème katangais, que le gouvernement provincial puisse encore encourager les peuples, la culture. Nous avons vu, on a obligé beaucoup plus les mining, les entreprises locales d'avoir au moins 500 hectares de maïs. Mais ce que je vous dis, c'est ce qui nous a mené aujourd'hui à parler d'un champ de maïs à un prix de plus ou moins 900 francs congolais. Ce n'est pas le cas de toutes les autres années, parce qu'on voyait, dans les années passées, arrivait déjà au mois de septembre, octobre, le prix de maïs coûtait plus ou moins 2000 ou bien 1500 comme ça. Et ce que je peux dire tout simplement, adressé à l'opinion congolaise en général, est que quand même, chez nous au Katanga, il y a aussi une avancée significative en matière d'alimentation. Les gens parviennent quand même à se nourrir, sans soif, par rapport à ce qui s'est passé les années passées.
Voilà, merci. Kiyombamba, vous avez dit que le gouvernement provincial va obliger aux entreprises qui se placent dans le secteur minier d'avoir au moins autant d'hectares de
oui, Vous cultivez aussi. Là, vous aurez quand même une progression sur le plan
Merci beaucoup, Kiyombamba. Vous êtes à Likasi au Katanga. Nous allons à Walikel, c'est dans le nord Kivu. Martinez, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Kiro.
Vous avez suivi Kiyombamba avec son témoignage à Likasi. Hein, les entreprises qui exploitent dans le secteur minier se sont engagées aussi à faire le champ. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix des maïs n'a pas pu monter en flèche comme d'autres années. À Walikel, on sait que c'est une zone où il y a une forte activité d'exploitation minière. Hein, et nous parlons de la lutte contre la faim, Martinez. Mais comment la population à Walikel s'organise par rapport à la faim? Est-ce qu'on développe les activités agricoles? Est-ce que cela est relégué au second plan par rapport à l'exploitation minière? Comment cela se passe à Walikale?
Merci pour la question. Ce que je peux dire que, vous savez, Walikale, c'est une zone qui est en conflit ces derniers temps. Beaucoup n'ont plus accès à leurs champs parce que les côtés où il y a eu des champs sont vraiment insécurisés. Alors, nous trouvons que ça fait arriver que, si par exemple les zones là-bas seraient sécurisées, on peut pallier un peu à ça. Et j'ai une proposition.
Allez-y.
Moi, je pense que ce n'est pas seulement question d'amener les tracteurs. Les tracteurs, dans des provinces montagneuses, ne peuvent rien. Et ici, chez nous, je pense que ce qu'on peut faire, c'est pas se regarder les salaires pour dire que le gouvernement ne paye pas, mais juste que chaque service de l'État puisse voir, ou chaque service privé puisse voir comment organiser, que chaque service puisse avoir un champ propre à lui. Si par exemple une école telle a un champ de 5 hectares, une autre école telle a un champ de 5 hectares, la DGM, la DGRAD, que chaque service puisse avoir un champ, je pense qu'on peut arriver à parler à cette situation avant que le tracteur ne nous arrive.
Voilà, est-ce que à Walikane, vous avez reçu déjà le tracteur?
Bon, peut-être que ça va arriver aujourd'hui, mais. Je ne l'ai pas encore vu.
Voilà. Merci, Martinez. En bref, vous proposez que chaque service, qu'il soit public ou privé, puisse organiser d'avoir un champ. Cela peut aider à ce qu'on puisse avoir beaucoup de nourriture sur le marché. Merci beaucoup. Vous êtes à Walikale et au nord de vous. Nous rentrons ici à Kinshasa. Ingénieur Bamba Mamba, vous êtes en ligne. Vous avez suivi les deux propositions des auditeurs. Celui d'Elikassi, hein. Il pense qu'il a encouragé le fait que les sociétés d'exploitation minière se soient lancées dans l'agriculture. Ça aide à ce qu'on ait beaucoup de maïs. Mais celui de Walikale pense qu'il faut aussi plus se consacrer à l'agriculture. Que ce soit au niveau des entreprises de l'État, que ce soit de services publics ou privés. Mais est-ce qu'on peut arriver à toutes ces initiatives s'il n'y a pas une politique cohérente définie au niveau du pouvoir politique national qui peut amener, inciter les uns et les autres à s'engager sérieusement dans l'agriculture?
Oui, ce que vous dites est une vérité. C'est le ministre ayant en charge de l'agriculture qui définit les orientations, la politique de développement, la politique agricole qu'il faille suivre. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a une panoplie de plans et également de directives et stratégies pour relancer le secteur. Mais je vais revenir sur le cas du Katanga. Si d'une manière, d'une part, on peut encourager la production du maïs, mais de l'autre part, il faut que eux-mêmes se posent la question, on ne produit pas pour rien. S'il ne vous a pas dit jusqu'au bout, il y a eu des excès de production excédentaire en maïs. Mais il n'y a pas eu de minoterie pour ce maïs, pour la population. Les gens se tournent toujours vers les importations vers l'Afrique du Sud. Donc, c'est-à-dire qu'en formant une stratégie, on doit aller de la production jusqu'à ce que le producteur sache lui-même gagner quelque chose. On ne produit pas pour rien. On produit pour gagner. Hein? Donc si les excédents qu'on a en maïs à Lubumbashi, on ne sait plus quoi en faire, et que maintenant les gens doivent se contenter de continuer les importations sur l'Afrique du Sud, la politique agricole du gouvernement provincial ne paye pas. Donc c'est-à-dire qu'on fait, il faille qu'il y ait une stratégie nationale qui va de la production, de végétaux jusqu'à la commercialisation. Donc ça c'est évident. Puisque si un producteur, il a produit autant, je dis, il ne sait pas vendre, et que le prix a baissé, et qu'il se retrouve finalement qu'il n'a rien, puisqu'il ne va pas vivre que du maïs, il doit lui aussi acheter d'autres articles, de savon, tout ça. Mais s'il ne sait plus en acheter, hein, le coût de la vie est au niveau où il est. Donc, ce producteur, cette année, il va voir que ce n'est pas intéressant, demain il change. Quant à un autre ami qui parle de services de rétention, des stratégies qu'on encourage, mais il faut se dire que l'État doit rester dans sa fonction régalienne de définir la politique du contrôle, mais la production doit être décentralisée.
Voilà.
Parce que quand vous parlez du Katanga, est-ce que les carrés miniers, vous connaissez la loi, le code minier, tous les Katanga sont déjà partagés en carrés miniers. Les agricoles, ils auront quel terrain? C'est un problème, problème foncier grave, et qui doit être résolu. Tout Katanga est carré minier. Les agricoles ils vont continuer les affaires d'agriculture.
Voilà.
Donc, en se confiant des entreprises, vous dites, les entreprises ont l'air à dire voler agricole. Mais vous leur donnez tous les terrains pour qu'ils prennent ce qu'ils peuvent. Pour eux, mais à la fin, il y aura un problème.
Voilà. Et quand on regarde, ingénieur Mamba Mamba, quand on regarde ce qui est représenté, le pourcentage, en fait, le PIB dans les années 60, c'était les 40% que l'agriculture apportait, n'est-ce pas, au budget de l'État et la situation s'est dégradée jusqu'au moment où on se retrouve. Et quand on compare la situation dans les années 1960, il n'y avait pas autant de personnes qui occupaient tous les terrains, il n'y avait pas assez de machines pour l'agriculture, c'était l'agriculture manuelle. Qu'est-ce qui a manqué par rapport à la politique définie dans ces années-là et la politique actuelle? Qu'est-ce qui a manqué au cours de l'histoire pour arriver à cette baisse de production qui directement expose la population à la faim?
Bon, vous avez d'abord des éléments, c'était une stratégie de la colonisation, une stratégie qui était basée sur des produits comme café et cacao, huile de palme et caoutchouc. C'était ça qui intéressait les colons. Donc, ça, c'est ça qui l'intéressait. Et c'est en fonction de ça que lui établissait sa ligne de politique. Et il y avait, souvenez-vous, il y avait la chicote, il y avait une vision, et puis il y avait des moyens qui étaient mis dans la guerre. Il y avait des moyens. Donc il y avait des moyens suffisants. Donc si aujourd'hui on peut comparer, il y a très peu de moyens qui sont mis dans la guerre, et puis une incohérence de stratégie, c'est tout.
Voilà.
Donc il y a une incohérence de stratégie. À ce moment-là, c'était la volonté de l'État. De dire que nous voulons produire. Et or, aujourd'hui, nous sommes déficitaires dans tous les produits. La recherche agronomique en son temps était la plus élevée. Vous vous souvenez, l'ILEAC était le centre le plus important. Aujourd'hui, l'ILEAC, maire de sa est en train de mourir sans soutien. Or, il y a un problème sérieux de la semence. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème des semences, et à ce moment-là, c'est l'INEAC qui produisait, qui était disséminé à travers toute la République. Et c'est l'INEAC qui donnait le moyen de sa politique pour les nouvelles variétés et tout. Or, aujourd'hui, il se pose un problème sérieux dans l'ensemble.
Voilà.
Donc l'INEAC n'a pas de soutien. Les quelques moyens qui viennent de partenaires extérieurs ne peuvent pas suffire pour régler la situation de la recherche agronomique.
Voilà.
Donc, ça, je peux dire que c'est la colonne vertébrale pour la production agricole. Et puis, il y a quelques moyens, non seulement on produisait, mais il y avait une politique de protection des végétaux. Donc, comme l'homme, il y a des plantes qui souffrent aussi des maladies et des certains fléaux. Donc, il faut qu'une politique nationale soit adéquate à ce niveau-là. C'est tout simplement ça. C'est vrai qu'actuellement, il y a une définition de ligne directrice, mais les moyens ne suivent pas, mon cher frère.
Voilà.
Les moyens ne suivent pas.
Merci, on
vous avez suivi la dernière fois le ministre de l'Agriculture au Palais du Peuple. Il a lui-même fait appel aux députés pour qu'ils le suivent dans les champs. Je ne sais pas combien l'ont suivi. Il a fait lui-même stigmatiser la situation du budget national. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'heure du budget national. Mais quels sont les moyens qu'on donne au budget alloué à l'agriculture? Mais c'est ça l'expression de toute la politique que nous devons avoir.
Voilà. On vous garde en ligne, ingénieur Mamba Mamba, parce que la situation est tellement préoccupante. Les proportions qui prennent la faim, en fait, les proportions qui prennent la faim, n'est-ce pas, et à travers le pays, 70% des ménages qui ne savent pas se nourrir et comme il faut. Pourtant, ces ménages vivent dans les milieux où la terre est fertile. Il y a une pluviométrie abondante, il y a des cours d'eau, il y a des rivières où on peut même avoir du poisson et qu'on manque une stratégie d'application pour permettre aux gens de se nourrir. Il faut quand même qu'on s'y penche dans une urgence vraiment. C'est là qu'on s'est considéré vraiment comme une question très urgente. Mathieu, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour. Mathieu, vous êtes en ligne.
Ici, du rapport qui classe notre pays, la République démocratique du Congo, 25e au monde pour l'instant. C'est clair et net. Moi, je vous le dis, depuis que notre pays a accédé à sa souveraineté nationale jusqu'à ce jour, aucun des souverainistes n'a jamais profité de l'occasion au budget de l'État pour adopter même 3% pour le programme de l'agriculture dans ce pays. Tous sont importés à l'extérieur, même les maïs. Or, nous avons des forêts immenses pour utiliser, capables de relever le défi. Mais, bien connu même au monde pour sa responsabilité, je le demande souvent d'après mes analyses personnelles. À quoi sert le ministère de l'agriculture dans ce pays? Il y a tout un an qu'on a décidé de engins, c'est-à-dire de placer là, par le gouvernement central, soi-disant matériel pour cultiver. On ne voit pas nulle part où est-ce que ce matériel travaille. C'est pénible pour moi. Moi, je trouve ça la marque de la politique dans ce domaine. C'est déjà le chef qui est enregistré.
Voilà. Mais Mathieu, si on vous écoute.
Comme une position
de recourir aux frais de bailleurs de fonds, pourquoi pas aux organismes internationaux spécialisés dans ce domaine, de nous tenir à mieux que les journalistes. Nous avons des cultivateurs paysans. Et ça y est, on peut donner même la confiance. C'est tout pour les propositions que je vous donne.
Voilà. Vous pensez qu'il faudrait recourir, appuyer les paysans pour les inciter à travailler et à produire au Wesley? On reste à Canada, bien sûr. Vous êtes en ligne. Au Wesley, bonjour.
Oui, bonjour, Thierry.
Oui, oui, vous avez suivi Mathieu qui est avec vous à Canada qui s'inquiète que vous avez quand même reçu les traiteurs dont du gouvernement central. Et bon, lui, il dit qu'il ne voit pas un endroit où ces travailleurs sont affectés pour la production agricole. Il pense qu'il faudrait appeler les paysans qui produisent ce qu'ils produisent et cela peut être consommé pour aider à combattre la faim. Mais aujourd'hui, cette situation de la faim touche aussi la ville de Kananga. Et concrètement, qu'est-ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui pour lutter quand même contre la faim à Kananga, aussi là.
Et merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez sur la radio Campus. Je trouve que l'agriculture, c'est un point de départ pour tout le pays. Moi, je veux rentrer un petit peu derrière, voyez un peu la Chine. La Chine, que vous connaissez bien aujourd'hui, c'est un pays qui s'est développé à partir de l'agriculture. Congo, notre pays, c'est un pays potentiellement riche sur tous les points, que ce soit sur les points pédagogiques, que ce soit sur les points écologiques. Mais je me demande, pourquoi nous sommes en train de grincer les dents pour cette crise qui n'a pas peut-être son but lucratif? Quel le problème, c'est quoi? Nous avons un gouvernement qui dort. Que ce soit le gouvernement national ou provincial, il s'intéresse à ses propres intérêts et intérêts personnels. Nous avons aujourd'hui des ONGD qui se sont implantés ça et là. Par exemple, ici, nous avons la Caritas, le Crochard, le Premier et autres. Toutes ces ONGD sont venues appauvrir, mais pas pour combattre la pauvreté sur la vie de Kananga. Qu'est-ce que vous imaginez? On remet à un paysan une machette et une roue. Vous imaginez quelle superficie peut être exploitée pour la survie? Alors, j'ai trouvé particulièrement que le gouvernement, c'est un gouvernement qui a un salaire. Le président de la République, dans son plan d'action qui parle sur les 5 chantiers, nous avons vu le financement de certains tracteurs qui aujourd'hui, M. Pierrot, je vous dis, ils sont à Cana. Ils ont totalisé peut-être deux ou combien de mois, je ne sais pas les calculer. Ils ne sont pas mis en pratique. Pourquoi pas? On manque toujours de bonne volonté. Mmh. Alors on remet toujours à nous qui sommes paysans, le roux et le machet, pour exploiter les terrains. Mais la nourriture d'abord, nous ne mangeons pas bien, nos conditions de vie ne sont pas rentables. Alors vous imaginez, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cette condition de vie féroce? Mmh. Et d'après moi, Pierre, écoutez ce que je vous dis.
Allez-y.
Je lance un cri d'alarme au gouvernement, qu'il soit national ou provincial, de sauvegarder la population. Tant qu'aujourd'hui, si la population est en train de chauffer, de traîner, est en train de craquer les dents, de gémir, je pense que le gouvernement s'intéresse à ses propres besoins.
Où il y a tout cela? On a vu des traiteurs, vous dites qu'ils sont arrivés à Kananga, on ne les a pas affectés, tout ça. Mais vous avez suivi le président de l'association des agronomes, il a dit ceci, qu'il y a le problème de l'État est à part, parce que l'État n'a pas alloué assez de moyens pour l'agriculture, mais il y a aussi le problème de la prise de conscience de la population elle-même. Dans la ville de Kananga, dans la périphérie, dans la province du Kasaï occidental, si l'État n'intervient pas, si vous n'avez pas de tracteurs, si vous n'avez pas de gros moyens pour faire l'agriculture, mais quelle est la part des responsabilités de vous-même, de la population, en ce qui concerne l'agriculture, pour permettre quand même à se nourrir? On ne va pas mourir de faim parce que l'État n'a pas encore donné les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience et un engagement de la population elle-même pour cultiver?
Exactement, Pierrot, ce que vous dites, c'est bien, ça semble bon. Mais vous savez qu'un paysan, c'est quelqu'un qui vit aussi, alors comme on dirait, quelqu'un qui vit sans pour autant raisonner. Alors, vous imaginez, Pierrot, moi personnellement, si vous parlez, je peux avoir l'envie de développer ma société ou peut-être mon paysanat. Alors, les conditions de vie ne me sont pas rentables, c'est-à-dire je n'ai aucun appui. Personnellement, je peux payer un super de maïs, un super de niébé, un super de bandoujou. Ça peut me servir pour combien de mois? Il a fallu que le gouvernement, dans son plan d'action, puisse aussi aider les paysans. Parce que les paysans eux-mêmes, vous savez, ils ont même quand même la volonté, parce que quand nous parlons des paysans, nous voyons les gens qui sont à la périphérie de la ville. Ils vivent d'eux-mêmes, ils ne dépendent pas du gouvernement ou de l'État. Mm-hmm. C'est-à-dire, mais cette survie qu'ils ont, est une crise insuffisante, qui ne consiste absolument à rien. C'est pourquoi vous trouverez la plupart des gens au village avec une santé médiocre, avec peut-être une croissance tellement retardée. Pourquoi? Parce que la nourriture qu'elles utilisent ou qu'elles ont n'est pas tout à fait rentable. Alors, si le gouvernement s'était engagé pour soutenir ces paysans avec des semences, avec des tracteurs, avec des outils là et là, vous verrez que les paysans seront plus aussi exemptés de cette souffrance que nous subissons aujourd'hui.
Voilà. Merci Wesley. Vous avez cité là quelques aliments, n'est-ce pas, quelques produits qui peuvent être cultivés à Canada. Vous avez parlé du maïs, vous avez parlé aussi de haricots, vous avez parlé, voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup Wesley. Vous êtes à Kananga au Kasaï occidental. Nous avons aussi un message qui nous est écrit par Avelin de Bounia. Il dit ceci: je pense que les autorités sont les premières personnes à donner priorité à l'agriculture. Et puis il faut qu'on favorise et qu'on encourage l'agriculture par l'octroi des crédits agricoles, routes pour évacuer, et aussi se pencher sur les routes des sites agricoles pour évacuer la nourriture, tout ce qui peut être produit par le paysan.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, sur les Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 2h, et mercredi de 10h, sur les Kinshasa.
Et par le secteur des SEOLANDI se penche sur la sécurité alimentaire. Vous savez que dans un rapport publié la semaine passée par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, la RDC est sur la liste des 25 pays où la faim a atteint des proportions inquiétantes. Et d'après le ministère de l'Agriculture en RDC, bien sûr, 70% des ménages congolais se trouvent en insécurité alimentaire. Soit 44 millions de Congolais sont fragilisés. Ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 12 millions dans les centres urbains. Ce qui veut dire que la faim a atteint des proportions qui inquiètent en RDC. Et nous, on se penche sur cela avec vous. Deux questions. Comment restez-vous face à ce rapport? Et surtout, quelles sont vos propositions pour lutter contre la faim en RDC? Et nous avons en ligne l'ingénieur Mamba Mamba, qui est le président national de l'association des ingénieurs agronomes du Congo. Nous réunissons ensemble pour savoir ce qu'il faut développer comme mécanisme pour lutter contre la faim. Mais tout le monde s'accorde que la lutte contre la faim démarre d'abord par l'engagement dans l'agriculture à cause des potentialités agricoles de la RDC. On peut parvenir à combattre la faim sans beaucoup de problèmes. Avant de donner la parole à Gilbert Etamouba, ingénieur Mamba Mamba, mais est-ce qu'il suffit tout simplement de produire, ou bien il suffit aussi d'étudier, de savoir ce qu'on produit au Kasaï par exemple, ce qu'on peut produire à Goma, ce qu'on peut produire au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans les Katanga, où est-ce qu'on peut les couler, quelles provinces peut bénéficier quoi? Parce que la lutte contre la faim, et c'est aussi savoir quelle est la qualité de la nourriture qu'on consomme, elle vient d'où, elle peut être utile à quoi. Et pourtant, quand on regarde la manière dont l'agriculture se fait dans votre pays, chaque coin au moins développe, par exemple, moins de cas, on produit des maïs, en dehors de maïs, peut-être qu'on ne produit pas d'autres choses qui peuvent être utiles pour l'organisme. Et dans ces conditions, nous risquons de vivre plutôt dans une situation éternelle de la sous-alimentation, ingénieur Mamba Mamba.
Oui, vous avez dit, bon, je crois que les interventions jusqu'à présent, on plonge dans les jérémiades, on a des potentialités, mais on ne sait pas, le gouvernement ne donne pas ceci. Moi, je préfère, il faut qu'on arrête, on s'arrête, nous sommes tous responsables d'une manière et d'une autre. Hein? Il y a le pouvoir qui ne fait pas de moyens. Nous, à l'époque, en 60, il y avait à peine quelques ingénieurs agronomes, aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Hein? Il y a les particuliers, les privés, qui, à l'époque, ce qui fait la vie, ils ne font pas. Mais maintenant, c'est arrêté. Dire qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce que l'agriculture, pour nous, est une voie de sortie, une voie de sortie pour la relance de l'économie nationale? Dès que nous offrons ça, parce qu'il ne faut pas vous le dire, chaque année, on distribue du matériel, chaque année, on distribue des semences, chaque année, on distribue des tracteurs au Kasaï occidental. On a vu ici des images des tracteurs gardés au gouvernement. Donc, ça, c'est un problème. Mais moi, je me dis, il faut rentrer dans cette. Moi, je vous ai dit, il faut produire pour gagner. Et pour gagner, il faut rester dans les normes qui sont établies. Aujourd'hui, l'homme s'est établi, l'Organisation mondiale du commerce, établi des normes qu'il faut suivre pour produire. L'agriculture n'est plus, monsieur le journaliste, ce n'est plus un art. c'est une science. Quand on produit dans la science, on doit respecter les normes. Tu produis en moins que du maïs, est-ce que ce maïs est conforme, il peut être exporté vers Zimbabwe ou ailleurs pour que tu gagnes. Il faut que tu saches est-ce que tu réponds aux normes. Est-ce que quand tu te décides de faire, est-ce que tu utilises la bonne semence? Est-ce que tu as du bon matériel? Et finalement, tout cela, il faudrait que non seulement l'État, nous sortons de post-conflit, l'État vous dira qu'il toujours n'y a pas de moyens, mais il faudrait que certains particuliers qui ont des moyens, qu'ils les lancent, par exemple, dans l'agriculture. Au lieu que je construis une maison d'1 million de dollars, j'ai dit j'investis ces millions de dollars dans l'agriculture. Une agriculture réelle. Parce que notre agriculture, jusqu'à elle est traditionnelle. C'est quelques postes des gens qui font l'agriculture. Mais cette agriculture-là ne va pas nous relancer. Mais malheureusement, c'est celle-là que nous avons.
Voilà.
Donc, il faudra que nous prenions cette... Alors, nous n'avons pas la semence dans ce pays-là. Il faudra que certaines personnes, non seulement produisent la semence, il faut qu'on appuie certaines institutions de recherche pour avoir la semence. Je veux avoir la bonne semence du maïs, je cherche où je peux l'avoir. Donc, je peux avoir la bonne semence ici. Je vous donne un cas simple. Un pays comme l'Égypte, un pays désertique, son agriculture produit 7 milliards de dollars. Donc, c'est une préoccupation nationale. Donc, vous comprenez? Donc, il faut que finalement, du chef de l'État, du député, jusqu'à moi, technicien, jusqu'au paysan, nous orientions vers l'agriculture.
Voilà.
On regarde aujourd'hui au Congo, on regarde enseignants, médecins, c'est tout ce qu'on regarde comme priorité nationale. Être député, être ministre. Mais il faudra que les gens se tournent, toi et moi, journaliste, moi, ingénieur, nous disons, pendant cette année, nous avons des priorités. Toi, tu viens prendre du matériel chez moi, je te dis, tu dois produire ça. Puisque, vers l'autre côté, on va produire la pomme. Quand lui va produire la pomme, sa pomme sera vendue au Kassai. Le maïs du Kassai va être vendu à gauche. Les riz à l'Équateur va devenir à tel niveau. Je te dis que jusqu'à l'an 2025, les statistiques nous montrent que toute la production vivrière est déficitaire. Donc si on n'arrête pas de stratégie, on va pleurer pour que jusqu'à 2025, on n'aura pas de bonne sortie.
Voilà. Donc, ok, ingénieur, nous allons libérer Gilbert qui est à Moba et Raphaël qui nous appelle depuis la Hollande en Europe. Gilbert, vous êtes en ligne, bonjour.
Allô.
Gilbert, vous êtes en ligne, bonjour.
Ok, en tout cas, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour la parole. Ici à Moba, j'ai des peurs fort. Pourquoi? La terre vraiment fertile. Maintenant, la population de Moba vraiment vive. Vraiment, à une vie très, très chère, les aliments très chers. Ainsi, le gouvernement envoie les tracteurs. Les tracteurs, là, ne font rien jusque-là, depuis que le tracteur a été envoyé. Ça, c'est vraiment invisible. Il y a des terrains propres, il y a des terrains propres qu'on doit cultiver, qu'on puisse un peu chasser un peu la faim. Mais jusque-là, les autorités ne font rien.
Voilà, Gilbert, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont accusé tellement les autorités, comme l'a dit l'ingénieur Mambamba. On pleure tous, on se plaint, mais il dit, selon les prévisions, si on ne prend pas un engagement, jusqu'en 2025, on continuera toujours à pleurer et comme ça. Bon, dites-moi, vous, particulièrement, quand vous regardez que vous avez une terre fertile et d'un côté, les autorités ne vous donnent rien, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'habitant de Moba, pour vous être en sécurité alimentaire? Est-ce que vous allez dire de mourir de faim et sans faire quelque chose jusqu'à ce que le gouvernement puisse vous donner peut-être un seul ou deux tracteurs à Moba? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui pour parvenir à sortir de la situation? En attendant, bien sûr, ce que le gouvernement peut faire.
Merci beaucoup pour le merci. Monsieur le journaliste, je vous dirais que vraiment la population, c'est plus se prendre en charge. Pourquoi? Quand vous allez toujours attendre les autorités qui ne font rien, vraiment, ils réunissent pour cultiver des champs qui vont sauver à la fin. Mais encore une autre proposition, j'allais dire que lorsqu'on nous donne des tracteurs, il faut qu'on puisse déléguer vraiment des hommes spéciaux, qu'on puisse contrôler un peu des tracteurs,
Merci Gilbert, vous pensez qu'il faut conscientiser les gens à s'engager dans l'agriculture, quels que soient les moyens qu'on peut avoir, plutôt que d'attendre seulement le pouvoir central. Raphaël, vous êtes en Hollande, en Europe, bonjour.
Bonjour monsieur.
Nous parlons de la faim qui prend des proportions inquiétantes en RDC. La RDC parmi les 25 pays où la faim menace sérieusement. Qui parle de la faim pour la combattre? On parle de l'agriculture avec toutes les plaintes, toutes les difficultés que vous avez senties. Eu égard à l'expérience de là où vous vivez, qu'est-ce que vous vous proposez aujourd'hui aux Congolais qui sont ici au pays? Ce qu'ils peuvent faire pour renforcer l'agriculture et surtout combattre la faim qui est une grande menace pour le développement de la société d'une manière globale, Raphaël?
Merci beaucoup. J'ai beaucoup à dire là-dessus, mais bon, peut-être faute de temps, j'aimerais être un peu bref. Mm-hmm. En fait, cher frère, le problème du Congo, parce que ce rapport, quand il est sorti, ça nous a mis mal à l'aise et puis ça nous fait très mal. Nous sommes certes en erreur en Occident, mais nous sommes physiquement en Occident. Mais notre esprit, notre âme réside toujours là chez nous au Congo. Mm-hmm. Donc, le problème du Congo, c'est quoi? J'ai participé à une conférence sur l'alimentation dans mon pays subsaharien. Il y a quelqu'un qui disait, qui parlait du Congo, il n'est pas congolais, qui parlait du Congo que voilà, Dieu a donné un paradis. Il ne pensait pas que je suis congolais. Dieu a donné un paradis terrestre vraiment à ces gens, mais en réalité, il a donné ça aux cons. C'est-à-dire, nous sommes
des cons.
Permettez-moi de le dire, nous sommes des cons.
Ça veut dire pourquoi on est des cons?
Comment expliquer? Eh bien, parce qu'on ne sait même pas exploiter ce paradis terrestre que Dieu nous a donné. Donc, nous, les Congolais, quand vous voyez, par exemple, du nord au sud, de l'est à l'ouest jusqu'au centre, nous n'avons pas de problème de désert. Il n'y a rien. Nous avons vraiment des terres fertiles. Nous avons des rivières, de fleuves, des amphibiens partout au Congo. Donc, le Congo, partout, est fertile. Mais malheureusement, ces peuples meurent de faim. Et on a basé le développement peut-être sur des minerais. Les coltans ou les diamants ne peuvent pas développer un pays. Dans l'histoire du monde, ces richesses ne peuvent pas développer un pays. Et un pays se développe par l'agriculture, parce que l'agent principal du développement, c'est l'homme. L'homme doit être, l'homme doit manger, l'homme doit bien vivre. Alors, si vous partez par exemple dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Sénégal, le Burkina Faso, tout ça, là, ils exportent des produits publiés, des produits agricoles. Mais chez nous, tout est importé. On ne peut pas développer un pays par des importations même des poissons sans char, qu'on appelle communément qui chassent en somme. Donc c'est pratiquement impossible. Et si vous voyez même les taux d'importation, c'est au-delà de 60%, parce que, à part le feuille, tout est importé à Kinshasa. Tout est importé. Mmh. Et il y a un Belge qui disait que même à Kisangani aujourd'hui, on importe même des chars. Mais curieusement, auparavant, Kisangani était vraiment là, on mangeait des poissons frais. Donc, je crois qu'il y a un danger qui nous guette. Alors, on dit diriger, de prévoir. Le gouvernement, ceux qui dirigent le Congo, ils doivent penser quand même au développement de ces pays, surtout en se basant sur l'homme. L'homme, congolais, les tracteurs, mais tout ça, c'est rien. On peut amener tous les tracteurs du monde au Congo. Mais si l'homme n'est pas formé pour ça, si l'homme n'est pas pris en considération, je crois que tous ces tracteurs-là ne feront absolument rien. On doit revenir auparavant et penser à ces peuples, les motiver, les expliquer le bon sens et voilà quoi.
Merci Raphaël. Vous pensez qu'il faut penser au développement de l'agriculture en mettant l'homme au centre de l'action du gouvernement? Nous rentrons ici au pays, ça vous reste bien sûr. Hein? Madame Viviane, vous êtes à Kikwit. Bonjour madame.
Bonjour monsieur le journaliste.
Et quand on regarde aujourd'hui la ville de Kikwit et la province de Bandundu et ses problèmes de la faim, qu'est-ce qu'on produit localement qui peut être appuyé pour permettre à combattre la faim dans le Bandundu, madame Viviane?
Ok, merci monsieur. Je voudrais dire que Bandundu hier ne pouvait pas envier la province du Chaba, qui est le poumon économique de la République démocratique du Congo.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, si nous sommes arrivés au stade de parler la faim, moi je me dis qu'il ne faut pas toujours voir seulement le gouvernement. le grand mal, c'est la population. Parce que le premier ministère que Dieu avait donné à l'homme, c'est l'agriculture. Comprenez, monsieur le journaliste, que nous, à Kikis, nous avons payé un seul poivre à 100 francs. Comparer les poivres aux allumettes et aux savons qui viennent d'ailleurs, qui sont des produits manufacturés.
Mm-hmm.
Nous payons une banane plantain, ou une banane plantain, oui, les gros Michel, à 150 francs. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que le poivre, c'est le gouvernement qui doit produire ça et venir vendre à qui quitte les bananes, tout ça? Chez nous, normalement, vous verrez qu'il y a 1000 personnes, 3 et 997 sont des consommateurs et 3 personnes sont des cultivateurs. Comment pouvons-nous prendre seulement culpabiliser le gouvernement pendant que nous-mêmes, nous ne voulons pas être conscients de notre besoin réel? Moi, je me dis que le problème, ce n'est pas le gouvernement, c'est au niveau de nous-mêmes, les mentalités. Je suis dans la ville de Kikwito. Les parcelles sont données aux dimensions où le potager est encouragé. Vous pouvez même faire 20 arbres de manioc, un peu de maïs, un peu de légumes dans votre parcelle. Mais monsieur le journaliste, si on est la ville de Kikwito, vous verrez que c'est malheureux.
Mm-hmm.
C'est très malheureux. Alors, c'est une interpellation de conscience des uns et des autres. Pour le gouvernement, pour moi, je crois que le gouvernement est en train de négliger l'agriculture dans ce sens que le budget alloué à l'agriculture est si faible. Mais le problème, c'est au niveau des mentalités, c'est au niveau des prises de conscience de nous-mêmes, les hommes et les femmes. Nous sommes une province à vocation agricole. Mais ce n'est pas le gouvernement qui viendra nous vendre les semences. Au contraire, c'est Bandundu qui doit produire. Mais combien de gens qui produisent?
Mm-hmm.
Notre jeunesse est encouragée à la danse, à aller dans des écoles. Il n'y a pas de jardin, il n'y a rien qui se fait là, si ce n'est que la musique, la danse, les films. Nous allons où? Nous devons nous prendre nous-mêmes au sérieux et comme ça nous pouvons demander à notre gouvernement, faire des pressions à notre gouvernement. Si nous-mêmes, nous ne nous prenons pas au sérieux, mais c'est les journalistes avec larmes aux yeux, nous disons que ça c'est un pays. Nous ne sommes pas maudits, nous avons des consciences. Ce n'est pas le gouvernement qui doit faire des petites choses, mais d'abord nous-mêmes, prenons conscience et mettons-nous au travail.
Merci. Merci Madame Viviane. Vraiment, c'est net, c'est clair. Hein. Il y a aussi ce travail qui doit être fait de la conscientisation de la population elle-même. La jeunesse doit savoir comment s'investir déjà dans l'agriculture en attendant les gros moyens de pouvoir public. Merci beaucoup. Vous êtes à Kikwito dans le Bandundu. On revient ici à Kinshasa avant de redonner la parole à notre invité. Benao, vous êtes ici. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de suivre comment Mme Viviane de Kikwito a tranché. Elle dit aussi que le plus grand problème d'abord, c'est la population elle-même. Il y a des gens qui ont des parcelles avec des grandes dimensions, mais qui malheureusement ne sont pas en mesure de faire ne plus qu'il y a un petit potager dans la parcelle pour planter soit les piments, planter soit l'effet des patates, l'effet des manioc, des choses plus simples qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas acheter, on n'est pas en mesure de les faire. C'est un problème au niveau de changement de mentalité d'abord de la population elle-même qui peut s'engager dans l'agriculture pour lutter contre la faim et aussi une responsabilité du côté du pouvoir public. On vous écoute.
Oui, ce que madame dit, la responsabilité des citoyens, elle est limitée, elle a raison. Parce que le besoin d'une famille ne peut pas couvrir toute la République démocratique du Congo. C'est pourquoi tous nous critiquons le gouvernement. J'apprécie d'abord la radio Capi pour avoir évoqué cette question parce que l'urgence du problème alimentaire n'est pas assez soulignée dans le recherche économique actuelle et même dans le budget du gouvernement.
Mmh.
Je vais d'abord vous montrer brièvement les méfaits de l'alimentation inadéquate sur la santé des individus. Donc, au gouvernement de savoir que je vais un peu plus loin en reliant l'alimentation et la croissance économique. Tous les peuples qui ont évolué, qui sont devenus forts, qui ont réduit leur mentalité, qui sont avancés en science, ont d'abord commencé à résoudre le problème de la faim.
Mm-hmm.
Il y a un auditeur qui a dit que le diamant, l'or et le coltan ne développent pas le pays. Il a raison celui-là. Donc notre gouvernement, à mon sens, a la lourde responsabilité parce que les petites et moyennes entreprises ont le pouvoir limité. Et le gouvernement, comme proposition d'abord, puisse soutenir d'abord les petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans les domaines agricoles. Et puis, on a parlé des tracteurs, je ne sais pas, dans la Bokassai. Il ne faut pas envoyer les tracteurs lorsqu'on n'a pas formé les utilisateurs des tracteurs. Combien des agronomes qui utilisent les tracteurs conformes ici dans notre pays? Et le coût de ces tracteurs-là, qui ne sont pas travaillés, qui sont dans des brousses là-bas, par rapport au budget du pays. Donc, le problème, à mon sens, c'est que le gouvernement prenne réellement confiance que tout citoyen mal nourri ne peut ni utiliser, ni accroître ses capacités physiques et mentales, et ne peut donc participer pleinement à l'effort du développement. C'est ainsi que vous voyez généralement, on peut quitter l'alimentation. S'il y a de gros insectes après l'inconscience, la corruption et tout, c'est parce que ce problème de faim n'a pas été résolu. Donc, pour moi, il y a la solution, c'est le gouvernement doit prendre en compte. Il y a même des investisseurs qui viennent, mais qui sont découragés par les taxes. Alors, on doit voir quel gouvernement où les initiatives sont limitées, et puis ceux qui viennent avec les initiatives sont découragés. Comme nous voyons des tracteurs venir pour les cinq chantiers, avec des formateurs, avec des Chinois et consorts, nous voulons voir ces mêmes tracteurs avec des... Pourquoi les Chinois ont été les premiers aussi à résoudre leur problème de ça? Pourquoi on a des Chinois rien que pour les routes, mais il n'y en a pas pour l'agriculture? Donc, à mon sens, il est clair que c'est de la faillite du gouvernement, que le peuple a faim. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire les jeunes, ceux qui ne sont pas les jeunes, le besoin global du pays sont statués par le gouvernement de ces pays. Voilà.
Merci Bénon, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de votre contribution dans Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Ingénieur Mamba Mamba, on tend déjà vers la fin de l'émission. Vous avez suivi, c'est vraiment une situation où, comme vous l'avez dit, c'est pas le moment de gérer, il faut des propositions concrètes. Mais quand on regarde au ministère de l'Agriculture, il n'y a pas, comme vous avez dit, les plans détaillés ne manquent pas. D'ailleurs, on a vu dernièrement, du 7 au 8 juin dernier, il y a eu un grand atelier qui a réuni le ministère de l'Agriculture et d'autres partenaires en ce qui concerne le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. PDDA, le programme de l'Union africaine dans le cadre de l'EPAD, et la RDC devrait aussi en principe présenter son plan d'action pour recevoir des fonds, pour être soutenu. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a initié les codes agricoles dernièrement. Il y a même les conseils agricoles de gestion, je crois. Tout ça, il y a autant de mesures qui on pense réunir tout cela pour parvenir à faire quelque chose. Mais curieusement, sur le terrain, on se rend compte que les choses n'évoluent pas. On a tendance à revenir aux mêmes plaintes, aux mêmes problèmes. Les paysans continuent à se plaindre. Mais concrètement, techniquement, qu'est-ce qu'il faut un peu de mots d'une manière détaillée qui peut permettre à ces conflits de sortir de cette situation, eu égard à toutes ces initiatives qui viennent de gauche et de droite? Ingénieur Mamba Mamba, vous êtes en ligne?
Il y a beaucoup de stratégies. Et si vous prenez dans le secteur de l'agriculture, il y a eu beaucoup de plans, beaucoup de stratégies. Moi, je pense que, d'abord, si nous disons il y a des faibles moyens du budget, c'est pour encourager l'État à les donner. Mais dans tout ce que l'État fait, par exemple, distribution des intrants, distribution des tracteurs, c'est comme le jeep qu'on a donné aux députés. Est-ce que chaque jour, l'État vient donner du carburant? Quand tu bénéficies d'une houe, gratuitement, de la semence, gratuitement, tu bénéficies d'un tracteur gratuitement. Mais engage-toi à faire quelque chose pour ton pays. Mais ne prends pas ça, tu as la houe, tu prends, tu vas jeter au marché de Bayaka pour vendre. Mais moi, je reviens à une chose. Une chose, c'est la contribution de l'association des jeunes agronomes. Nous étions 60, à peu près 5 ou 6. Aujourd'hui, nous sommes 1000 sur 60 millions d'habitants. En 2020, nous serons 116 millions d'habitants. Avec un déficit alimentaire d'à peu près 47 tonnes en produits vivriers. Ce que nous disons, nous nous livrons gratuitement pour donner des conseils techniques à ceux de nos compatriotes qui veulent s'engager dans l'agriculture. Gratuitement. Ceux qui ont des moyens, ils viennent que nous leur aidons à faire des projets bancables de se lancer dans l'agriculture. Nous-mêmes, nous décidons de nous convertir puisque on ne peut pas continuer à se dans une même direction. Nous avons décidé nous-mêmes de nous jeter à l'eau, c'est-à-dire à devenir des fermiers, pour que au moins nos productions soient orientées, soit vers la production de semences, vers autre chose. Mais tout ce que nous demandons à l'État, c'est en échange qu'il nous donne le local des terres cultivables sur lesquelles on peut se lancer. C'est notre contribution pour la France. Pour l'État, je préfère qu'ils continuent la mise en œuvre de ce plan de stratégie qu'ils sont en train d'instaurer. En insistant, il faudrait que le ministère de l'Agriculture, ça ne fait rien. Il faut une volonté générale, une volonté qui part d'en haut jusqu'en bas. Au peuple,
J'ai dit au peuple, abandonnez tout ce qui dit justice et tout ça. Revenons à l'agriculture. Retour à la terre pour que nous soyons réellement libres. Si nous rentrons, tu as 10 000 hectares et tu as gagné au plateau de Bateke où tu ne fais rien, apprends l'habitude de concéder à quelques gens qui peuvent faire quelque chose. Tu as un petit montant de terre. Moi, je suis formé dans une institut technique agricole de Tchibachou. Aujourd'hui, cet institut est en train de disparaître.
Oui.
Tout comme Ngombe Matadi, tout comme Mombelo. Vous aurez quel technicien. L'agriculture, elle est une science aujourd'hui. Elle ne suffit pas de faire, tu mets là où, tu penses que c'est ça. Il faut également protéger cette culture.
Voilà.
Donc c'est un appel de pied.
Ingénieur Mamba, si vous
voulez, voilà. Pour une conscience nationale.
On va vous remettre la parole pour clôturer, lancer l'appel et clôturer l'émission. Le temps que Augustin Dikindou, c'est le dernier auditeur de la série pour cette émission, puisse donner son point de vue. On va vous remettre la parole tout juste après. Augustin, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Comme vous êtes le dernier auditeur, vous savez, au nom des auditeurs, conclure cette émission, donner en bref, dans quelques mots, votre contribution en termes de propositions concrètes pour aider la population de Kindou à lutter contre la faim. On vous écoute.
Écoutez, je vais commencer à dire tout simplement ceci. Nous devons retourner à notre agriculture artisanale. Avec les tracteurs, nous ne ferons rien ici au Maniema. Quand un tracteur tombe en panne, vous savez combien coûte une pièce de réchange. Moi, je pense qu'on doit vraiment équiper la population avec des instruments de travaux. Et puis, le ministère de l'Agriculture. Moi, je ne sais pas comment nous devons continuer à garder dans des universités la faculté de l'agronomie. On ne sait à quoi faire l'agronomie, étant donné que les agronomes qui finissent dans les universités n'ont pas les moyens pour travailler. Donc, je voudrais demander si on puisse équiper ceux qui terminent dans la faculté de l'agronomie, et surtout, laisser la population les travailler leur terre, au lieu de les flatter avec la politique qui ne peut rien faire changer notre population de manière à M. le journaliste.
Merci.
Je vous remercie.
Merci, Augustin. On revient à vous, ingénieur Mamba Mamba, pour vous permettre dans deux minutes de clôturer cette émission. Vous êtes en train d'interpeller les uns et les autres sur l'engagement ferme qu'il faut prendre pour relancer l'agriculture et lutter contre la faim. On vous écoute pour terminer.
Et je rebondis sur ce qu'il a fait. Mm-hmm. Dans l'agriculture, il y a trois choses. Il y a les ressources, il y a la terre, il y a les capitaux.
Mm-hmm.
La combinaison de ces trois facteurs vous donne la production. Et cette production doit être protégée. Du côté des ressources humaines, je vous ai dit, les ingénieurs que l'État a formés par l'État, des agronomes, même s'ils sont négligés aujourd'hui, un médecin peut payer trois ingénieurs agronomes dans ce pays-là. Mais c'est comme ça que j'ai dit, aujourd'hui, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils rentrent vers la terre, c'est la terre qui va rendre les hommes libres. Que les décideurs politiques, aujourd'hui, c'est la leur du budget national. Allouer un budget convaincant à l'agriculture. Mais il ne faut pas couper même à l'agriculture. Ce qu'il avait hier, dans le projet du budget national, on coupe encore ce qu'il avait hier. Hein? Donc, vous prenez à ceux qui ont des terrains qu'ils ont gardés. Il y en a qui sont déjà distribués en carré minier. Retournez ces terrains à l'agriculture. Et ceux qui ont de possession de terres, qui ne font rien, invitez les gens. Et nous, techniciens, nous nous livrons à vous. Pour vous orienter, pour ceux qui vont aimer l'agriculture, à vous donner des conseils. Au Radio Okapi, j'encourage ces émissions. C'est une prise de conscience nationale.
Mm-hmm.
Vous invitez les gens, au lieu de parler politique, au lieu de parler des gens, vous invitez aux gens de parler d'un secteur qui est lui-même producteur de devises, qui est lui-même créateur d'emplois.
Merci.
Donc si les gens ils donnent leur engagement, je crois que nous tous, nous pouvons le lever.
Merci
c'est
beaucoup.
Ce que le ministère de l'Agriculture est en train de faire, il faut encourager du souhait des tracteurs, du souhait des fous, mais que ça soit rationnel.
Merci.
Donc, pour le reste, je crois que je vous remercie pour l'ensemble de ce que vous avez fait ce matin.
Merci à vous, ingénieur Mamba Mamba, d'avoir accepté notre invitation. On termine cette émission avec Sylvain Banza Sumbu de Mbujimaï. Il dit ceci, il faut commencer par aménager les routes de cette agricole. Par exemple, ici au Cassé Oriental, il y a certains coins où l'on produit suffisamment, mais difficile d'acheminer. C'est là, au niveau des grands centres où ça peut être consommé. Merci à vous, Sylvain Maza. Merci à tous les éditeurs qui ont accepté d'être en compagnie avec nous pendant presque une heure pour commenter ces sujets autour de la lutte contre la faim et la relance de l'agriculture.
Allô? Allô? Allô?
Oui.
Il ne répond pas?
Vous avez été très nombreux à vouloir réagir. C'est comme notre ami Dias Arlan qui nous a écrit. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de lire votre message, mais dis-moi merci. Et nous, on se retrouve demain mardi avec vous pour une nouvelle émission. Vous savez que la troisième édition de la Marche mondiale de femmes s'est clôturée hier dimanche à Bukavu, aussi que vous, par un grand rassemblement à la place de l'indépendance. Les femmes venues du monde entier se sont mobilisées pendant près de 3 jours pour dénoncer et dire non à toute forme de violence dont les femmes sont victimes. Demain, on en parle avec vous. Comment réagissez-vous face à cette mobilisation et quelles perspectives pour poursuivre la lutte contre les violences faites à la femme? Soyez nombreux à réagir à l'adresse pa@radiookapi.net. Merci à Cynthia Bachir et Nicole Ngata qui m'ont aidé à la production de cette émission mise en onde par Dédoné Nyangasa. On se retrouve avec vous demain, passez un grand moment en compagnie de Radio Okapi.